appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine en compagnie d'Eve, la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Contentieux électoraux en RDC, la Cour constitutionnelle statuant en dernier ressort a rendu ses arrêts la semaine dernière, invalidant près de 30 députés nationaux. Parmi ces députés invalidés, une vingtaine appartient à la plateforme La Moka. Cette dernière qui rejette ses arrêts a appelé ses autres élus, députés et sénateurs, de suspendre leur participation aux activités parlementaires. Comment commentez-vous cette situation? 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans Parole aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot et la Meji. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Seboujango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre de contentieux électoraux liés aux élections législatives nationales ont provoqué plusieurs débats et contestations, manifestations aussi. Et nous en parlons avec vous sur les plans juridiques. Hein, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Merci. Vous êtes nombreux à commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et en ligne, nous avons notre invité, Maître Charles Mouchizi, avocat et défenseur des droits de l'homme. Maître Mouchizi, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et que prévoit la loi en principe en ce qui concerne les contentieux des élections législatives nationales, en bref?
Que ce soit la Constitution ou la loi électorale ou même la loi qui porte l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle à son article 81, le contentieux électoral au niveau présidentiel et législatif national est du domaine de la Cour constitutionnelle. Mm-hmm. Bien évidemment, au niveau provincial et local, ce sont les cours d'appel administratives et les tribunaux administratifs. Mm-hmm. Mais j'imagine que pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous voulons bien parler plutôt des législatives nationales.
Exact. Et alors, c'est du ressort de la Cour constitutionnelle. Et comment la Cour doit-elle être saisie en ce qui concerne les contentieux pour les élections législatives nationales?
En principe, parce qu'il s'agit des intérêts particuliers, des intérêts des particuliers, des individus, la Cour est principalement saisie par les personnes qui croient avoir des prétentions à faire valoir devant elle, c'est-à-dire des candidats qui se sentent lésés par la proclamation des résultats provisoires de la CENI.
Et alors là, nous avons par exemple quelqu'un qui se sent lésé, qui va saisir la Cour. Il y a la personne qui a été élue, il y a la CENI. Mais est-ce que dans la procédure, comment la Cour en principe est-elle procédée? C'est-à-dire écouter les uns et les autres, faire intervenir la CENI?
D'abord, lorsque la CENI proclame les résultats provisoires, elle est dessaisie de l'affaire et l'affaire devient une question à régler et éventuellement pour ceux qui sont lésés, comme je le disais, entre l'individu lésé et la Cour. Et donc, les individus introduisent devant la Cour leur requête en contestation des résultats et la Cour procède à des vérifications. En fait, il faut dire plutôt que le contentieux électoral est un contentieux de sincérité, de vérification et d'authentification. Et donc, la Cour, se basant sur les résultats proclamés par la CENI et sur les moyens de preuve contraires apportés par la personne qui remet en cause ces résultats, statue en vérifiant effectivement la pertinence des éléments de preuve qui sont apportés à sa connaissance. Mais il faut insister que ce soit dans le délai de la loi, c'est-à-dire pour ce qui est de l'article 92, si je ne me trompe pas, de la loi de 2017 qui modifie la loi de 2006 sur les élections, dans les 8 jours de la fin du délai pendant lequel justement le candidat doit la personne qui le requérant devrait introduire son contentieux. Mmh. Et donc la cour est non seulement liée par les délais de la loi prévus par l'article 92 de la loi 2016, mais au de 2017 plutôt, mais aussi elle doit plutôt procéder par une vérification et par une authentification.
Et la loi électorale prévoit que la vérification, cela veut dire, ça prend 60 jours. Et ici, les gens ont d'abord critiqué la CENI dans quoi, on s'excuse, la Cour constitutionnelle, d'abord dans la forme qu'elle a pu rendre ses arrêts et examiner ses contentieux au-delà même des 60 jours. Est-ce que ça peut déjà poser un problème, le fait qu'on ait examiné au-delà de la durée prévue par la loi?
La procédure doit être de rigueur parce qu'elle est déjà du domaine de la loi. Et donc, le premier élément qui attire l'attention et qui fonde les critiques qui sont formulées aujourd'hui à l'égard de la Cour constitutionnelle, c'est justement ce défaut de respect des délais qui sont prévus par la loi.
Et quand on entre maintenant à l'intérieur, on sait que là, il y a beaucoup de problèmes. Il y en a les uns qui ont contesté, les autres. Est-ce qu'il peut arriver au niveau de la Cour qu'on commette une erreur d'appréciation et qu'on puisse rendre un arrêt qui, en réalité, contredit la CENI, mais qui, en réalité, elle peut avoir aussi des erreurs au niveau des vérifications à la Cour constitutionnelle?
Oui, parce que de toute évidence, l'erreur est humaine et la Cour fonctionne à travers des individus qui peuvent se tromper, qui peuvent s'égarer. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est des questions qui relèvent d'une certaine flagrance de la léthargie avec laquelle la Cour a traité le contentieux et même d'une certaine légèreté que la Cour a mis en branle pour se prononcer. Je note par exemple que la Cour n'a ordonné aucune mesure d'instruction pour apporter des éléments de preuves contraires par rapport aux résultats qui ont été proclamés par la CENI. Et donc la Cour a statué sans par exemple ordonner le recomptage de voix ou l'examen d'un certain nombre de documents sur base desquels la CENI a proclamé les résultats provisoires. Et donc, du coup, on s'est retrouvé devant, on se retrouve devant des arrêts qui sont soit pas suffisamment motivés, soit pas bien motivés, parce que les éléments de preuve apportés par sur base desquels la Cour a statué ne ressortent pas. En tout cas, dans aucun arrêt, on ne voit ressortir ces éléments. Pourtant, il aurait pu justement se baser d'abord sur les résultats de la CENI, mais ensuite sur les éléments de preuve apportés par les parties litigantes.
Alors, on va revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs. Ils sont nombreux sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi à 9M qui nous appelle pour intervenir. Élie, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans Paroles aux auditeurs. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi. Je salue les interventions de notre invité d'aujourd'hui. La question de la Cour constitutionnelle depuis les régimes passés a fait désoler la plupart des Congolais que nous sommes par rapport aux arrêts qu'elle est en train de rendre sur le plan public. Donc sur le plan des potentiels électoraux, je pense que par rapport aux prérogatives qui sont reconnues à la Cour constitutionnelle, premièrement de traiter les litiges liés à la constitutionnalité des lois, ainsi que les litiges qui opposent les candidats aux élections, notamment des présidents de la République, des députés nationaux. Mais nous avons été vraiment désolés, premièrement, par cette cour. Vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle, qui avait rendu l'arrêt par rapport au mandat du président de la République, était composée de 5 juges. Or, que normalement, il faut, au cas échéant, 7 par défaut. Mais la Cour était réunie en 5 juges. Ce qui a vraiment désolé la plupart des Congolais que nous sommes. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts en rapport avec les recours qui lui ont été introduits par certains candidats députés. Mais ça ne corrompt pas aux réalités juridiques du Congo. Parce que, premièrement, la Cour constitutionnelle ne peut rendre les arrêts convertis du temps lui concédé par la loi. Parce qu'il faut parler de 2 mois. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'est prononcée en dehors de la limite lui déférée par la Constitution. Ce n'est pas vraiment propice dans un état de droit. Et puis lorsque nous revenons aussi dans ce qui concerne le principe d'inattaquabilité des arrêts de la Cour. Pierrot, moi personnellement, en tant qu'analyste de la scène politique, je ne suis pas d'accord que la Cour constitutionnelle, oui, allô, je pense que vous m'écoutez.
Allez-y, continuez, oui.
Oui, les arrêts de la Cour constitutionnelle doivent en tout cas être attaqués parce que le problème du contentieux électoral sont les problèmes liés aux faits administratifs. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tellement que nous avons la juridiction de l'ordre administratif, comme communément appelé les conseils d'État, et alors que la Cour constitutionnelle a traité les affaires des contentieux électoraux qui peuvent aussi entrer dans les attributions du Conseil d'État, et que lorsque la Cour rend son arrêt par rapport aux contentieux électoraux, on peut attaquer les arrêts auprès de la Cour, auprès du Conseil d'État, qui est la Cour de la juridiction de l'ordre administratif. Parce que lorsque la Cour constitutionnelle rend ses arrêts au premier et au dernier ressort, c'est-à-dire que la Cour peut, en tout cas, prendre une décision qui est à l'encontre même de la vision du droit, mais personne ne peut attaquer toutes ces décisions parce que la Cour constitutionnelle ira son arrêt au premier ou au dernier ressort. En tout cas, de mon point de vue, je recommande en tout cas aux constituants congolais de bien fignoler les attributions concédées à la Cour constitutionnelle. Elle ne peut pas rester la haute Cour qui ira les arrêts au contre-courant des procédures au Congo. Je pense qu'en ce niveau du débat, nous devons revoir la constitution de la République. Parce que la Cour constitutionnelle, Pierrot, je vous le dis, elle agit sur le plan national. Parce qu'il n'y a pas de représentation provinciale de la Cour constitutionnelle par rapport
okay. à la... Alors, Élie, vous estimez, Élie, que comme la Cour rend ses arrêts en dernier ressort, qu'on ne peut pas les attaquer et qu'il y ait erreur au niveau de ces arrêts, il fallait qu'on revoie carrément la loi pour voir la possibilité de pouvoir attaquer les arrêts de la Cour. Parce que là, quand il y a erreur, qu'est-ce qui doit être fait? Maître Mouchizi pourra nous dire comment on peut corriger une erreur, n'est-ce pas, au niveau d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes à Kikuit. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, voilà. Pierrot, je pense que la situation que nous traversons devrait donner de la matière aux législateurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui constituent des scandales. Simon de Beauvoir avait dit, ce qui est scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas que tout s'habitue au scandale. Alors, il y a ceci. Mon prédécesseur venait de le dire, on dit, les arrêts de la Cour sont exécutoires et opposables à tous. Alors, les Américains, Pierrot, je crois que nous devrions aussi nous inspirer des travaux des autres. Les rédacteurs de la Constitution américaine avaient prévu ces cas de figure. Et ils ont dit, nous devons éviter que la Cour suprême se considère comme une superpuissance. Alors, il fallait aussi que les membres de la Cour suprême aux États-Unis, ils doivent faire un effort pour être le modèle de justice. Et la loi prévoit tout ça. Maintenant, chez nous, le scandale vient d'où ? Le scandale vient du fait que lorsqu'on sait que l'arrêt est exécutoire et non est opposable à tous, eh bien, évidemment, mon prédécesseur l'a dit, c'est là le piège. Et c'est pour ça que je dis que le législateur doit réfléchir. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que si je me réfère encore à la Cour suprême aux États-Unis, eh bien là, on vous dit que les décisions judiciaires sont fondées sur la raison et l'autorité. Or, l'invité venait de dire qu'il y a des problèmes. Ces gens n'ont pas respecté la procédure parce que d'abord, il y a le problème de délai. Il n'a pas été respecté. Et on voit qu'ils n'ont pas demandé le recomptage des voix alors que tout le monde s'attendait à cela. Donc, la raison n'y est pas. Alors que la Cour constitutionnelle doit nous montrer l'exemple. Et il y a d'autres choses. Aucune société ne peut dépendre exclusivement du pouvoir judiciaire pour se préserver des déviations. Et ça, c'est prévu. La plupart des constitutions des pays occidentaux prévoient toutes ces déviations du pouvoir judiciaire. Et chez nous, et malheureusement, évidemment, on me dira c'est une démocratie naissante, ça c'est encore un argument que moi je rejette. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes indépendants et les juristes sont là, on devrait penser à cela. Donc, les députés de cette législature ont de la matière. Or, maintenant la difficulté c'est quoi ? C'est que les députés semblent dépendre des autorités qui sont en train d'éviter certaines choses. Donc, nous avons une difficulté. La deuxième difficulté que nous avons, c'est quoi? Si nous prenons la constitution de la Grande-Bretagne, il est dit ceci. Quand la société est corrompue, on fait recours à l'université. Là, c'est en Grande-Bretagne. Alors, maintenant, chez nous, le problème, c'est quoi? L'université semble être le milieu le plus corrompu de toute la République. Et c'est là aussi que on a peur de recourir aux, nous avons vu les juristes qui se disputent quand il s'agit d'interpréter un article de la loi. Donc, c'est là que je vais demander aux législateurs d'être très souple, de revoir beaucoup de choses, sinon on va s'enfoncer. Nous avons le cas je vais vous terminer par une intention de prière qui est sortie hier dans une église. On dit ceci, demandons à Dieu qu'il donne à nos dirigeants la force de maintenir l'ordre, la discipline et la paix. Alors, mes chers amis, Pierrot, vous savez que maintenir l'ordre, la discipline et la paix, il faut la justice. Et la justice va de pair avec la vérité. Or, ici, il est clairement établi que tous ces débats naissent parce qu'il n'y a pas toute la vérité que nous attendions. Il semble y avoir mensonge. Et j'ai fini par une réflexion d'un philosophe camerounais. Il a dit ceci. Nous avons, il s'appelle Fabien Ebou-Sibulaga, il dit, dans les pays africains, nous avons des États qui sont structurellement mensonges et violences meurtrières. Le mensonge, Pierrot, là où il y a mensonge, il n'y aura jamais de paix.
Merci.
Là où il y a mensonge, il n'y aura jamais de discipline et il n'y aura jamais d'ordre. Donc voilà un peu.
Merci beaucoup Olivier. Il y a beaucoup de choses. Vous estimez que les arrêts rendus, hein, il n'y a pas beaucoup de vérité dans ça parce qu'on n'a pas, comme vous le dites, hein, on n'a pas raconté, on n'a pas vérifié et que il fallait qu'on trouve une autre solution sur le plan juridique par rapport à où est-ce qu'on peut recourir quand il y a ces arrêts inattaquables dès lors que on se rend compte que ces arrêts ne sont pas fondés sur la vérité et que les juristes eux-mêmes devaient réfléchir pour qu'on trouve une solution, hein, prochainement comme le souhaitait Elie tout à l'heure. Alors, Singhi Pouloulou, merci d'être avec nous à Kinshasa. Bonjour. Singhi Pouloulou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez été au centre, je peux dire, victime de ces arrêts de la Cour constitutionnelle.
Vous savez, l'état actuel des choses ne me permettait même pas de parler, mais je suis surpris que vous m'avez rejoint au téléphone. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation qu'on ne peut pas expliquer. Mais la justice élève une nation. Maintenant, nous nous remettons entre l'autorité du chef de l'État. J'ai dit toujours que les mots l'air contenu. Le président de la République, il est le garant de la nation. Ces mots-là, garant de la nation, expliquent beaucoup de choses. Deuxième élément, le président de la République, il est le magistrat suprême. Rien ne peut lui échapper. Le président de la République a prêté serment pour respecter la Constitution et la faire respecter à tout le monde. Vous, journalistes, vous savez ce qui se passe. Commençant par les délais. Si aujourd'hui, les élèves vont passer l'examen d'état le 24, on commence l'examen à 8h, l'enfant ne termine pas jusqu'à 18h, demain matin, si cet enfant-là, il y aura toujours des surveillants pour continuer à l'attendre. C'est-à-dire, le chef de l'État, magistrat suprême, c'est son autorité qui est mise en jeu. Concernant mon cas, j'ai été invalidé par les jugements RC 285 opposant les regroupements politiques PPPD contre dynamique de l'opposition. Tingui, je suis de A à B. Subitement, les juges commencent bien, son audience, tous les Français qui le mettent là, PPPD avec dynamique de l'opposition, et ils ont fourni des avis là-dedans que les PPPD réclamaient qu'il avait 8000 voix dans sa liste et que son candidat avait 4000 voix et que les autres là avaient moins que ça. Moi, dans ma liste, nous avons 30 868 000 voix. Moi seul, j'avais dans les 18 000 voix. Et subitement à la fin, les notes d'insigne entrent dans les jugements invalidés. Est-ce que c'est l'erreur matérielle? Est-ce qu'il s'agit du fantôme? C'est un signe de fatigue. C'était quoi? Bon, l'erreur est humaine. Considérons que l'erreur est humaine. Nous allons voir. J'ai introduit la requête depuis samedi. Je vais voir si c'était une erreur matérielle ou bien ce sont des signes qui justifient les sanctions américaines envers les autorités congolaises.
Merci. Et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup hein, pour ces témoignages. Vous avez introduit le recours pour la rectification. On va voir quand même votre explication est intéressante. Votre groupement politique n'était pas attaqué en justice. C'était plutôt les PPD qui attaquaient dynamique de l'opposition. Et vous tombez dans ces cas avec 18 000 voix sur 30 000 près hein, de votre groupement politique. Et puis, on va voir. Et notre invité pourra nous dire si on peut expliquer dans ces cas, parce qu'il y a aussi d'autres cas où les gens n'ont pas été attaqués en justice, mais ils ont été invalidés. L'invité pourra nous donner un peu assez d'explications, lui en tant qu'expert. Merci beaucoup hein, de ces témoignages, mais en attendant, le recours qui doit être examiné au niveau de la Cour constitutionnelle. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, par rapport aux invalidations, Monsieur Pierrot, d'abord, c'est une tristesse, puisque la justice est là pour élever le pays, mais ici, chez nous, voyons que la justice est là pour ternir l'image, pour jeter l'opprobre à notre pays. Puisqu'il y a quand même une loi, une disposition de la loi électorale, numéro 74. Le recours, la Cour constitutionnelle devait rendre son verdict dans les 60 jours. Et nous estimons que les 60 jours sont largement dépassés. Pour nous, nous estimons que ces jugements-là sont nuls et demi les faits. Ça, c'est un premier problème. Et par rapport même au rendement de ces jugements-là, à l'article 21 de la Constitution, c'est bien que les jugements soient motivés. Qu'on démontre la motivation de ces jugements-là. Et au-delà de ça, dans l'article 26, les jugements sont rendus au nom du peuple. Et c'est le peuple-là qui réclame aujourd'hui de cette invalidation-là. Moi, j'estime que ce n'est pas du tout normal. Lorsque quelqu'un qui est proclamé par la CENI, entendant son entendement par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il se retrouve avec beaucoup de voix qui sont remplacées par une autre personne, quand bien même nous avions un système électoral? Ça, ce n'est pas du tout bien. Moi, j'inviterai la Cour constitutionnelle à corriger ces erreurs qui sont matérielles pour que me remettre les gens dans leurs droits. Parce qu'on voit que cette invalidation-là a créé beaucoup de problèmes au niveau du pays. Et qui peut même fragiliser la paix sociale au niveau du pays. Il y a eu des soulèvements par-ci, par-là, le Lubumbashi, il y a eu même des morts. Il y a des gens qui ont attaqué même les assemblées provinciales. Ça, ça n'honore pas la justice congolaise. Moi, de toutes les façons, moi, j'aimerais que la Cour constitutionnelle puisse prendre quand même conscience et de revoir son jugement, quand même on a toujours dit que dans une disposition de la Constitution, que les jugements de la Cour constitutionnelle ne soient susceptibles d'un recours. Mais pour cette fois-ci, nous parlons d'erreurs matérielles, qu'on remette les gens dans leurs droits. Parce que lorsque la population porte son dévolu sur quelqu'un, il faut respecter ce choix-là de la population. Et ce sont les élus qui ont été choisis par la population qui doivent se mettre au service de la population pour cerner certaines difficultés auxquelles la population est affectée.
Merci.
C'est au moment où on invalide quelqu'un qui a 22 000 voix au profit d'une personne qui a 2 000 voix plus que fait partie de la famille de M. Kabila, ça n'honore pas. Il faudrait qu'on puisse respecter quand même le vote qui a été fait par la population.
Merci beaucoup, Sonville. Vous avez insisté sur la motivation, les arrêts rendus au nom du peuple. Et ici aussi, hein, cette question de gens qui ont, comme le disait notre compatriote Singhi Poulou tout à l'heure, 30 000 voix sur la liste, lui-même 18 000 voix. Mais il n'a pas été attaqué en justice, mais curieusement, lui, il a été invalidé. Beaucoup de cas comme ça, des gens qui n'ont pas été attaqués, mais qui ont été invalidés, mais aussi avec cette question des 10 000 voix, 2 000 voix, tout ça. Alors, vous estimez que la Cour devait se ressaisir pour corriger les erreurs matérielles. On va parler avec tout à l'heure avec notre invité 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mais le débat s'étient aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Charles Mouchizi, vous avez suivi nos auditeurs. Il y a d'abord la question, les questions d'ordre général. On estime qu'on devrait revoir la loi par rapport à cette question d'inattaquabilité des arrêts de la Cour. Mais quand on rentre maintenant dans le fait pour ce qui est arrivé maintenant, il y a ce qu'on évoque, les erreurs matérielles, la différence des chiffres, les gens qui n'ont pas été attaqués à la Cour constitutionnelle mais qui ont été invalidés. On a validé ceux qui avaient peu de voix et invalidé ceux qui avaient beaucoup de voix, sans oublier aussi que beaucoup d'invalidés appartiennent à l'opposition. C'est autant de questions qui sont soulevées autour du travail réalisé par la Cour constitutionnelle, Maître Charles.
Oui, c'est vrai que sur base de l'article 168 de la Constitution, on peut considérer effectivement que les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et elles s'imposent erga omnes. Mais je crois qu'il faut considérer maintenant la justice comme un fait humain aussi, un fait donc qui n'est pas susceptible d'être traité, d'être reçu d'une certaine perfection, et donc un fait qui est susceptible de correction. C'est évident, tous les éléments de critique que j'ai entendus tout de suite sont fondés. Mais à mon avis et dans l'interprétation de en interprétant l'article 168 de la Constitution et les autres articles qui de la loi qui organise la Cour constitutionnelle, je crois qu'en application du droit commun, il est possible aussi que le juge soit saisi par la requête des mêmes parties litigantes en cas d'un élément nouveau ou en cas d'une analyse insuffisante pour réouvrir les débats. Le principe de la réouverture des débats est établi par la loi pour permettre effectivement au juge de recevoir des moyens supplémentaires sur base desquels il peut statuer et rendre le bon droit. Et donc je crois que même si cela ne ressort pas clairement de la Constitution ou de la loi sur qui régit la Cour constitutionnelle, le principe de la réouverture des débats relève du droit commun et il appartient aux parties litigantes qui estiment avoir des éléments qui peuvent mieux éclairer la Cour à mieux statuer, de les apporter et de demander par voie de requête, même si je dis cela n'est pas prévu par la loi électorale, par la Constitution, ni par la loi qui régit la Cour constitutionnelle, et permettre au juge constitutionnel de statuer à nouveau pour rendre le bon droit.
On sait que en fin de semaine, le président de la Cour constitutionnelle avait reçu la délégation de la plateforme la Mouka, qui a perdu d'ailleurs beaucoup de députés. C'est aussi ça le problème, parce que les arrêts ont plus attaqué ceux de l'opposition pour être remplacés, par exemple, par ceux du FCC, et voire même beaucoup de ministres en fonction qui ont été réhabilités par la Cour. Et le président de la Cour a promis qu'il pourra voir comment avoir, des commissions, des chambres spéciales pour pouvoir examiner. Mais est-ce que le fait de pouvoir réexaminer, si ceux qui étaient invalidés sont encore validés, n'est-ce pas, cela peut porter vraiment un coup, on peut le dire, sur la crédibilité du travail que doit accomplir la Cour constitutionnelle?
Je crois que la Cour constitutionnelle est aujourd'hui au carrefour de la lutte pour sa propre image. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'elle s'est déjà suffisamment salie. Le fait que le ministre en fonction qui ait perdu aux élections soit validé aujourd'hui pose la question de son indépendance par rapport à l'exécutif. Le fait que les invalidés soient essentiellement des opposants pose aujourd'hui la question de sa crédibilité et de son indépendance par rapport au régime passé. Et donc, aujourd'hui, la Cour doit pouvoir statuer et statuer et donner des motivations qui peuvent permettre à ce qu'elle fasse reluire la justice. Et donc, tout résidera justement dans la qualité de sa motivation. La Cour peut ordonner le recomptage de voix et ça, c'est prévu par la loi. La Cour peut aussi faire application des mesures, ordonner des mesures d'instruction supplémentaires éventuellement. C'est vrai qu'elle est dessaisie, mais les parties litigantes peuvent l'amener à ordonner un certain nombre de mesures d'instruction pour authentifier les résultats qui sont proclamés, qui ont été proclamés par la CENI, ou authentifier les résultats qui sont apportés par les autres parties litigantes qui se prévalent d'éléments sur lesquels peut-être la CENI n'a pas statué en proclamant les résultats définitifs. Donc aujourd'hui, c'est clair, la Cour peut revoir ses décisions à travers des chambres spécialisées ou à travers les chambres les plus ordinaires sur base des requêtes formulées par les parties litigantes amenant justement à la Cour des éléments nouveaux qui peuvent l'aider à mieux statuer.
Voilà, on va écouter Marcel qui est à Luisa. Félicité à Kinshasa. Marcel, merci d'être avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, merci également vous parce que vous m'avez associé à ce débat républicain et je salue également votre invité Maître Charles Mouchidi. Monsieur Pierrot, ce que je voulais faire comme constat, c'est que en République démocratique du Congo, plus nous avançons d'un mètre, mais nous reculons curieusement de 5 kilomètres. Plus nous avons, c'est ce que je voudrais dire par là, que plus nous avons beaucoup de facultés, plus il y a irrégularité de ces facultés. Alors, donc vous allez voir beaucoup d'avocats maintenant, mais vous allez voir que l'état de droit devient l'état de gauche, à mon avis. Parce que vous voyez que tout ce qui se déroule, quand nous grandissions, quand on dit que la décision de la Cour est déjà rendue, et tout le monde pouvait incliner. Si aujourd'hui, si vous pouvez voir la plupart de vos intervenants, de vos auditeurs, personne ne peut donner un avis favorable par rapport à tout ce qu'il y a comme irrégularité dans les décisions de la Cour. Vous allez voir, Monsieur Pierrot, que la conséquence, c'est quoi? Lorsque la population, d'ailleurs même profane, commence à constater une petite irrégularité de la haute cour qu'elle est, cela discrédibilise déjà cette cour. Et aussi, si vous voyez bien, si vous analysez de plus près, c'est une manière de dire implicitement à la CENI que monsieur et madame la CENI, vous avez très mal travaillé avec le reste de vos membres. C'est ça tout simplement le langage. Alors, comment voulez-vous que monsieur Pierrot, ceci puisse arriver par rapport à l'indépendance, par rapport à la procédure juridico-temporelle qui n'est pas mise en place? Et aussi, moi, je pense, je ne sais pas si l'invité peut nous dire que est-ce que la procédure juridico-temporelle est-il respectée? Ont-ils un soubassement aussi juridique par rapport à tout ce qui est arrivé? Et également, monsieur Pierrot, vous allez voir qu'il y a aussi une inadéquation, à mon humble avis, il y a une inadéquation arithmétique. Comment voulez-vous que, monsieur Pierrot, on invalide un député de l'opposition? Celui qui est remplacé, c'est FCC. Mais quand on remplace, on invalide FCC, et celui qui remplace, c'est FCC. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même une adéquation.
Mais ça salue que ça, c'est un problème. Vous avez, Marcel, vous avez évoqué la question de l'indépendance et la crédibilité même de la Cour par rapport à cette question, quand bien même tout le monde n'a pas le contour matériel qui a poussé à la Cour de prendre ses arrêts, de rendre ses arrêts. Mais vous estimez quand même le fait d'avoir beaucoup de députés de l'opposition qui sont invalidés, remplacés par ceux du FCC, ça pose un certain nombre de questions sur l'indépendance, la crédibilité de résultats. Merci beaucoup, Marcel. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, toute cette situation est en train de nous montrer le niveau de la médiocrité qu'a atteint le peuple congolais en général et la classe politique en particulier. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde s'attaque à la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui organise les élections. C'est la CENI. Si la CENI avait bien fait son travail, la Cour n'aurait plus rien à faire. Hier, la Cour chôme, la Cour constitutionnelle chôme. Mais ici, chez nous, la Cour a encore trop de travail après les élections. Les gens ont oublié comment ont été les élections, comment on les a organisées. Et aujourd'hui, on laisse les présidents de la CENI et la CENI tranquilles. Maintenant, c'est la Cour. Et le niveau d'anti-valeur que nous avons atteint. Quand quelqu'un a gagné les élections, quelle que soit la façon dont il a gagné, il félicite la CENI. Quand quelqu'un n'a pas été invalidé par la Cour constitutionnelle, il félicite la Cour constitutionnelle. sauf ceux qui sont lésés, qui s'attaquent à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Voilà, chacun pour soi. C'est la politique du ventre. On ne veut pas corriger le mal, on ne veut pas faire quelque chose pour l'intérêt du pays, pour l'avenir du pays, mais pour chacun. C'est ça le problème. Et il y a des gens même qui vous disent, non, lui, il a eu autant de voix. Mais écoute, quand on a demandé la vérité des urnes, tout le monde a dit non, pas question de la vérité des urnes. Et tous ceux qui demandent la vérité des urnes, on lève donc tous les noms des oiseaux qui sont dans la forêt, dans la brousse, parce qu'ils réclament la vérité des urnes. Mais comment vous savez que vous avez eu autant de voix, vous avez eu autant de voix? Comment vous l'avez su? Parce qu'il n'y a pas eu de comptage de voix. Et la CENI n'a pas donné des copies de PV suffisantes à tout le monde. Comment vous le savez? La médiocrité. Et là, alors, voilà le comble. Même les hommes d'église, ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, ont accepté que nous puissions vivre dans la tricherie, dans les anti-valeurs, dans la corruption. Et ils agréent ça. Alors maintenant, dans ce pays, qu'est-ce qu'on va appeler péché? On va aller à l'église pour aller confesser quoi? On va à l'église pour aller entendre quoi? Parce que les hommes de Dieu peuvent agréer même les péchés de la tricherie et du mensonge et de la corruption. Moi, j'ai dit ceci. Je pense que on est mal parti et nous ne pouvons rien faire. Dans ce pays, toutes les élections qu'on a organisées, les gagnants n'ont jamais dirigé, les gagnants n'ont jamais gouverné. Et on fait avec, et on avance, et on continue. Mais il faut s'arrêter quelque part et réfléchir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vous condamnez aujourd'hui la Cour constitutionnelle. Tout le monde, ceux qui ont refusé la vérité des urnes, qui ont dit qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus réclamer. Ce sont ceux-là qui vont brûler les pneus. Ce sont ceux-là qui vont brûler les pneus même devant la Cour et qui demandent à la Cour de revenir. Mais alors, non, loi, nous allons faire quoi? Notre constitution, on va en faire quoi?
Alors là, vous demandez plus, Félicien, qu'il y ait une remise en question. Si les gens s'attaquent à la Cour aujourd'hui, alors que le problème avait commencé depuis la CENI, mais on estime quand même que la Cour doit corriger les erreurs commises par la CENI, mais c'est un problème, vous le dites, d'intérêt. Chacun défend son camp et son intérêt. Et alors, pour le moment, il faut arriver à une remise en question générale, que ce soit depuis qu'on a commencé les élections, on a le même problème. S'il n'y a pas une remise en question générale sur la manière de faire, ça sera très 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 difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne de Kinshasa. Guillaume, vous êtes à Mahagi, bonjour.
Bonjour, mon frère Pierre.
On vous écoute.
C'est avec beaucoup de regrets. Je suis très malheureux d'apprendre ça, de faire la politique par la suite. Moi, je crois que c'est une aventure grave. Comment se fait-il que quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 5 mois comme député, mais brusquement comme ça, on les carte, on les valide. Donc, cela montre que la Cour congolaise a perdu sa valeur. On ne peut plus croire à cette Cour. Monsieur Pierrot, si vous analysez bien, le Congo ne peut pas avoir la paix avec des décisions comme ça. Ça devient directement comme une source de tension. Même ailleurs, dans des localités, comment se fait-il que quelqu'un qui a été voté massivement, on l'invalide, alors que tout le monde l'appelle député? Il a cherché pendant plus de 5 mois, il a participé dans toutes les commissions, mais brusquement comme ça, on l'invalide. Alors, le pouvoir réel, c'est un pouvoir d'amour, ce n'est pas un pouvoir d'aventure. La vérité des urnes, on a réclamé avant, mais on ne nous a pas donné. En tout cas, on ne peut pas croire à ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'il y a des problèmes au Congo. Quelle image nous donnons à l'extérieur avec des aventures comme ça? Et pourquoi seulement les invalidés sont seulement les opposants? Donc, que cache la réalité derrière tout ça, mon frère? En tout cas, on ne peut pas comprendre. C'est vraiment très difficile. Donc, la population est vraiment mécontente. Non, ce sont vraiment c'est une situation prévisible.
Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume, de votre intervention. Vous avez évoqué un élément important. Il ne faut pas que les décisions soient source de tension. Alors, ça, c'est très important, ce que vous avez dit, hein, et surtout ces questions où les gens reviennent sur ces invalidations. Mais il y a notre compatriote Félicien qui disait tout à l'heure que le problème avait commencé depuis longtemps. C'était avec déjà l'organisation des élections au niveau de la CENI qui s'est posé déjà des problèmes. On a pu négliger la manière dont les élections ont été organisées et pour se concentrer maintenant sur la question de la Cour constitutionnelle. Alors, Maître Charles Mouchizi, beaucoup de gens reviennent aujourd'hui, hein, ils font appel au chef de l'État pour voir qu'est-ce qui se passe avec la Cour constitutionnelle, mais on sait qu'on est dans le principe des séparations de pouvoirs. Quel rôle le chef de l'État pourrait-il jouer parce qu'il y a beaucoup d'appels aujourd'hui pour voir comment il peut intervenir et quel pourrait être le rôle du chef de l'État dans ces cas, Maître Charles Mouchizi.
Déjà partant du principe de la séparation de pouvoir, en matière de contentieux électoral aujourd'hui géré par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État n'a presque pas de manœuvre à faire. Il peut à la limite peut-être demander un certain nombre d'explications, mais il ne peut donner aucune injonction ni aucune orientation à la Cour constitutionnelle pour éventuellement revoir ces décisions. Comme je le disais tout de suite, c'est vrai que c'est pas des dispositions qui soient prévues par les textes qui organisent la Cour constitutionnelle, mais il est de bon droit, il est de droit même que lorsque les parties litigantes sont en possession d'éléments nouveaux qui sont nature à influencer la décision du juge, le juge qui s'est déjà prononcé peuvent apporter ces éléments devant le juge, même en matière de contentieux, de gestion de contentieux électoral, pour montrer effectivement à la Cour qu'elle s'est mal orientée ou qu'elle a pris qu'elle a statué sur base d'éléments non probants. Et donc ça, ce sont des erreurs sur lesquelles justement la Cour peut revenir en revoyant ses propres décisions. Et c'est pour cela que je parle de du caractère relatif de l'inattaquabilité des arrêts de la Cour, parce que la Cour est une juridiction, une des plus hautes juridictions, dont les décisions doivent servir comme jurisprudence sur les autres contentieux de la même nature. Et donc la Cour, puisqu'elle elle a une certaine souveraineté sur ces questions-là, peut analyser et tirer des conclusions claires de si les éléments qui sont apportés à sa connaissance sont de nature à influencer positivement ou pas du tout la qualité des décisions qu'elle a prononcées.
Voilà, et merci.
Donc aujourd'hui, il appartient plutôt aux parties litigantes de pouvoir s'introduire devant la Cour pour obtenir ces gains de cause, parce que le chef de l'État ne peut absolument rien, lui-même étant de l'exécutif et pas du judiciaire. Même si, par absurde, on dit que le chef de l'État est le magistrat suprême, c'est pas en fait qu'il est le chef de tous les magistrats, c'est simplement un titre plus ou moins honorifique, d'ailleurs qu'il faut élaguer de la Constitution pour ne pas continuer à entretenir une certaine confusion. Il faut en plus que la population sache que lorsque on parle du chef de l'État comme magistrat suprême, on ne parle pas de lui comme membre du pouvoir judiciaire. On parle de lui comme l'arbitre du bon fonctionnement de toutes les institutions.
Alors, on va écouter Monsieur Julien Paluku, député national, président du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo, ABC. Monsieur Julien Paluku, vos trois députés ont été invalidés. Vous avez fait une déclaration le week-end. Comment les faits se sont-ils déroulés? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. J'ai suivi tous les intervenants. Mais je tiens à rappeler ici que la justice, en fait, a pour finalité d'asseoir la paix dans la société. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que lorsque la CENI a proclamé les résultats de tous les députés nationaux, en tout cas, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu une marche organisée quelque part pour contester un seul député national qui a été élu dans sa circonscription. Par contre, lorsque les arrêts de la Cour sont sortis, on voit maintenant des barricades partout, des destructions, ça et là, pour dire que finalement la Cour vient remettre à la surface des gens qui ont été rejetés par la population congolaise. Le cas de notre regroupement ABC est beaucoup plus flagrant et nous nous sommes appuyés effectivement sur l'article 93 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Et pour notre cas, il y a eu des erreurs flagrantes. Nous prenons le cas de Loubefou, dans les Sankourou, où la Cour donne le siège à quelqu'un qui appartient à un regroupement, les RASOP, qui n'a pas atteint les seuils. Imaginons que cette décision de la Cour soit maintenue. Mais que diront les professeurs de droit? Que diront les étudiants? Parce que ce sera une jurisprudence que la Cour octroie un siège à un regroupement qui n'a pas atteint les seuils. De deux, dans cette même circonscription de Loubefou dans les Sankourou, la Cour, en accordant les voix à l'élu, un ministre en fonction, le nombre total de voix dépasse le nombre d'électeurs de la circonscription. Ce qui est une flagrance terrible. Bon, il y a un deuxième cas, par exemple, à Kabare, dans le sud Kivu, où la Cour octroie les sièges à une personnalité encore ministre de son État, qui est 15e sur la liste. Dans une circonscription de 4 sièges, on vient sortir notre candidat qui est 3e, et introduire le 15e sur la liste, l'introduire frauduleusement et faire de lui un député national. Et ça crée des vagues de tensions, de destructions à Kabare au sud Kivu. Il y a un autre cas à Kinshasa, où la Cour donne le siège à quelqu'un qui n'a jamais attaqué notre regroupement. Il n'a jamais eu de plaidoirie, il n'a jamais eu de requête introduite. On n'a jamais plaidé, mais d'un coup on apprend qu'une décision de la Cour a ramené encore notre ministre en fonction dans la course pour faire de lui député national pour un dossier qui n'a jamais été plaidé devant la Cour. Donc je crois que c'est quand même des erreurs qui se sont introduites parce que la Cour est faite de personnes qui peuvent se tromper, comme a dit l'invité, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes appuyés sur cette loi pour dire, eh bien, monsieur de la Cour, rectifiez ces erreurs pour faire honneur aux intellectuels congolais.
Alors, monsieur Julien Paloukou, rappelons quand même qu'il y a eu aussi beaucoup de contestations politiques autour de ces décisions de la Cour. Rappelons quand même que vous avez un regroupement politique qui appartient au FCC et vous perdez les 3 sièges qui sont remplacés par des ministres en fonction pour nous dire aujourd'hui qu'il y a eu des interférences politiques dans cette manière d'avoir jugé les choses.
Bon, moi, je ne vais pas entrer dans les débats, dans les spéculations. Je voudrais rester dans la loi, c'est pourquoi notre regroupement s'est appuyé sur les prescrits de la loi, sur la Constitution, sur la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, pour que nous puissions être réhabilités dans nos droits. Les spéculations ne vont nous amener nulle part. Moi, je voudrais vraiment que la Cour puisse donner honneur à cette haute juridiction, parce que si les décisions qui ont été prononcées par certains des magistrats qui étaient dans les compositions sont maintenus comme tels, ça sera quand même un scandale judiciaire dans notre pays. Donc je crois qu'il est important que la Cour se serve de l'article 93 pour corriger les erreurs en interne et comprendre que ça doit avoir été des gens qui se sont compromis d'une manière ou d'une autre. Et là, moi, je crois d'ailleurs que nous qui sommes à l'Assemblée nationale, nous devrions introduire des innovations dans la loi. Par exemple, la première innovation pour moi, je crois qu'il faut créer des chambres. Comme à la Cour pénale internationale, il y a le premier degré et le deuxième degré, je crois qu'il faudra créer des chambres à l'intérieur de la Cour constitutionnelle pour qu'une décision qui sort d'une première chambre soit ait la possibilité d'être attaquée par une deuxième chambre. La deuxième innovation que je pense devoir protéger les élus, c'est que comme la loi électorale dit que les arrêts doivent être rendus dans les délais de 60 jours, il faudra qu'on introduise un deuxième alinéa qui dit dépasser ces délais, les décisions de la CENI deviennent définitives. Parce que si vous lisez l'article 111 de la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, cet article stipule clairement que la Cour rend son arrêt dans les délais fixés par la loi électorale. Or, la loi électorale a déjà fixé ce délai de 60 jours. Donc, tout ce qui est rendu au-delà du délai fixé par la loi électorale, normalement, ne pouvait pas être considéré si on s'en tient à cet article 111 qui porte organisation et fonctionnement à cette même Cour. Donc toutes ces irrégularités-là, nous les avons ramassées dans nos requêtes en rectification d'erreurs matérielles pour porter devant la Cour ces problèmes et lui permettre de statuer en bonne et due forme et de ramener nos députés qui ont été invalidés de la manière dont tout le monde peut déjà se rendre compte.
Et enfin, parce que vous avez évoqué cette question de l'innovation au niveau de la loi, pensez-vous que les débats peuvent être portés parce que vous êtes député national au niveau de l'Assemblée nationale pour quand même qu'on ait des garde-fous? Il y a Olivier qui a même lancé un appel pour l'actuelle législature en estimant qu'il fallait vraiment se focaliser sur cette question pour éviter que dans l'avenir on puisse avoir ces genre de d'erreur qui, en réalité, discrédite aussi le travail que la Haute Cour doit en principe accomplir.
Je soutiens vraiment qu'il y ait des innovations dans la loi telle que je viens de le dire tout à l'heure, pour que vraiment qu'on ne puisse pas arriver à ce scandale. Sinon, la Cour va croire qu'elle peut se permettre de prendre n'importe quelle décision. Et il faudrait qu'on rappelle que ça soit nous qui ne sommes pas à la Cour ou ceux qui sont à la Cour, tous nous sommes égaux devant la loi et personne n'est au-dessus de la loi, y compris les magistrats de la Cour. Donc il faudrait que dans les innovations qui devraient être introduites, eh bien que cela soit spécialement dit, soit clairement indiqué pour que le délai qui est imparti par la Haute Cour soit respecté, délai au-delà duquel tous les arrêts seraient rendus nuls. Je crois que si on met cette introduction-là, ça permettrait à la Cour de traiter les dossiers avec célérité, mais en respectant effectivement ceux qui ont gagné, mais ça permettra également à ce que, lorsque le délai sera dépassé, que les arrêts ou les décisions qui avaient été rendues par la CENI soient déclarées définitives.
Merci beaucoup, Julien Paloukou, président du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo. Les dossiers en recours, comme le disait aussi notre compatriote Singi Pouloulou, on retourne maintenant à la Cour. L'invité le disait tout à l'heure. Merci de toutes ces précisions. Alors, on revient à vous, maître Charles Mouchizi, parce que les auditeurs sont revenus là-dessus. Vous avez suivi le député Julien Paloukou qui estime qu'il faudrait aussi des innovations. Pensez-vous que c'est possible aujourd'hui pour qu'on arrive à partir de ces précédents, voir comment améliorer toutes ces lois à la prochaine?
Oui, je salue l'intervention tout à l'heure du député Julien Paloukou. Et je voudrais renchérir justement sur des questions de réforme. Lorsque l'article 158 de la Constitution dit que la constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 désignés par le Parlement réuni en congrès, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 de la présidence, on sent déjà en fait une certaine impunité consacrée par la Constitution à l'égard des juges de la Cour constitutionnelle, qui soi-disant sont humains, peuvent être induits en erreur, peuvent être sollicités financièrement ou peuvent recevoir des avantages pour rendre une décision qui ne répond pas aux principes posés par la Constitution et par les lois particulières. Et donc, on sent justement que ces 9 échappent totalement, par exemple, au contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, qui, soit dit en passant, conformément à l'article 152 de la Constitution, est le gestionnaire de l'ensemble du pouvoir judiciaire. Or, aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut avoir juridiction que sur les 3 magistrats qu'il a désignés au Conseil supérieur à la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a 6 qui échappent complètement à sa juridiction et qui sont plutôt du domaine politique parce qu'ils viennent de la présidence et du Parlement. Et c'est donc des gens qui sont, s'ils peuvent prétendre à une certaine indépendance, on ne peut pas affirmer sans critiquer leur indépendance, sans considérer justement qu'ils viennent des tendances politiques et donc des tendances des intérêts privés, des intérêts particuliers, et donc ils ne sont pas de nature à être indépendants par rapport à une question de droit, une question d'appréciation qui est soumise à leur examen. Et donc d'abord il y a cette question d'impunité sur laquelle il faut travailler en faisant en sorte que tous les magistrats de la Cour constitutionnelle soient des magistrats et soient susceptibles d'être sanctionnés en cas de corruption, par exemple.
Il y a
des allégations qui font état aujourd'hui de la corruption d'un certain nombre de magistrats de la Cour constitutionnelle. Mais qui va les sanctionner? Au-dessus de...
Charles Mouchizi, avocat et défenseur des droits de l'homme, merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui deux réformes. Merci à Alain Goy qui était à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro. Merci, au revoir.